Allez.
Ouais, vous êtes sur une
c'est la chaîne qui prend l'antenne. Comme un
sauvage. On c'est est là, on va essayer de vous envoyer un générique.
C'est une prise d'antenne. C'est trop... Voilà.
C'est ça l'antenne en direct, ouais. Radio Galère 88.4, on commence à avoir l'habitude, là.
Salut à tous, NDChain, un lundi de plus sur Radio Galère 88.4. Eh oui, pas de mouvement social, les sans-papiers se font expulser, le temps est glacial, c'est l'heure de s'occuper des SDF. Y'a plus d'occupation, plus de blocage, bordel. Minez, ça caille. 88.4, Radio Galère,
une enfant de Dieu.
NDChain, une émission radioactive, sans solution ni alternative.
Qui hurle, gueule, sa colère, sa rage et ses haines.
Ses rêves et ses peines.
Sans manière et sans gêne.
Contre toutes les chaînes.
De l'école à la maison.
Du turbin à la prison.
Des lois aux élections.
De la conso à l'aliénation, de la misère au pognon.
Du spectacle à la télévision, de la morale à la religion.
De l'indifférence à la résignation.
De l'obéissance à la soumission.
Soyons, soyons...
De la graine de gangrène. Brisons, brisons.
Brisons toutes nos chaînes.
Trancher les veines de ce monde de merde.
Et trancher les veines de ce monde de merde. Avec NDChain le lundi de 20h à 21h sur Radio Galère 88.4.
Pour agir et rire.
De voir ce monde
s'écrouler.
Nous l'espérons.
Nous entendons les micros.
Oh putain, nous entendons les micros. Voilà une émission sans sujet, on vous l'a dit aussi, il y en a qu'un, il est libre, ou là, il y en a un autre, il est X multiplicateur, c'est le sujet révolutionnaire. C'est pour après, et sinon on va commencer avec...
De l'actualité.
De l'actu.
Pas vraiment d'actu, plutôt un texte atemporel. Un texte de Léon de Matisse qu'on a trouvé sur son blog, que vous pouvez retourner voir pour le lire, et qu'on a mis, qu'on a lu, qu'on va vous lire spécialement pour vous ce soir. Ça s'appelle Démocrature.
Oh, on l'aime bien, Léon de Matisse. On passe toutes les semaines.
Toutes les semaines, on l'aime bien, Léon de Matisse.
Il fait les émissions pour nous. En fait.
Démocrature. Ce néologisme scellé, contraction des mots démocratie et dictature, connaît depuis quelque temps un certain succès. Utilisé dès la fin des années 80 comme titre d'un livre qui dénonçait alors les excès des médias, il a encore été tout récemment employé par un membre du groupe La Rumeur dans une interview. Tel qu'il a été compris jusqu'ici, ce mot renvoie à l'éternel développement sur la fausse démocratie. Une démocrature, ce serait une dictature qui se donne les apparences de la démocratie. Un parlement, des institutions légales, des élections même, et pourtant un pouvoir objectivement confisqué par le recours à l'intimidation, le contrôle des médias ou toutes sortes de manipulations. Si on s'en tient à cette première définition, on admettra que nombre de régimes dans le monde y répondent assez bien, comme la Russie et certains autres pays issus de l'ancienne URSS. En poussant le raisonnement un peu plus loin, on trouvera aussi en Europe une tendance à se rapprocher de ce modèle. En allant encore un peu plus loin, on peut assez facilement soutenir que dans toutes les démocraties du monde, le pouvoir de l'argent et des élites sur la presse, sur l'administration ou sur la justice est suffisant pour qu'aucune d'entre elles ne puisse prétendre à être autre chose qu'une apparence. Toutes nos soi-disant démocraties ne seraient donc que des démocratures. Pourtant, cette compréhension compréhension du mot « démocrature » est une fausse piste, car en dénonçant l'apparence de la démocratie, on paraît croire qu'une vraie démocratie pourrait exister. Mais il n'y a pas de démocratie véritable, il n'y a que des démocraties réelles, c'est-à-dire telles qu'elles existent. La démocratie est, a toujours été et sera toujours une forme d'organisation du pouvoir étatique. Et en ce sens, elle entretient un lien de parenté évident avec la dictature, cet autre pôle de la forme possible de l'État. Cette conception familière au classique a depuis été largement obscurcie par l'idéologie contemporaine qui veut à tout prix opposer démocratie et dictature. En vérité, démocratie et dictature ne sont que les vêtements de l'État qu'il peut revêtir tour à tour au gré de ses nécessités. Quand la contestation est forte, ou la menace extérieure pesante, voici le temps de la dictature, c'est-à-dire la restriction la plus large des libertés publiques et l'extension avec son maximum des prérogatives confiées à quelques aventuriers investis du pouvoir d'exécuter la sale besogne. Quand il estime que le danger s'estompe, l'État relâche la pression et effectue sa mue démocratique. Les libertés s'étendent à nouveau, c'est-à-dire concrètement que le contrôle policier s'allège, tandis qu'un choix relatif et encadré est lancé aux citoyens dans la détermination du personnel chargé des tâches de la gestion ordinaire de l'État. C'était là le principe des périodes de tyrannie dans le monde antique, et c'est celui, plus près de notre époque, de l'alternance des dictatures et des démocraties en Amérique latine. Mais il faut bien que tout change pour que tout demeure semblable. Et les États contemporains de ce tournant de millénaire, du moins les plus modernes de ces États, ont perfectionné la méthode ancestrale. Il est certain que pour des raisons d'idéologie, d'organisation et par souci d'économie, il serait difficile à certaines des démocraties qui dominent le monde, comme les États-Unis ou les États de l'Ouest européen, de se doter de régimes trop sanguinaires. Passe encore qu'on soutienne Pinochet, mais qui voudrait d'un Pinochet chez soi ? Au cours des années 70 donc, tandis qu'on demeurait très old school au Chili ou en Argentine, on expérimentait en Italie ou en Allemagne de l'Ouest des formes de coercition plus subtiles. Ce sont des expériences depuis généralisées qui permettent d'aboutir à la démocrature actuelle. La démocrature, c'est tout simplement un régime démocratique où le curseur de la coercition a été quelque peu déplacé en direction de la démocratie. En soi, ce n'est évidemment pas neuf. Il y a toujours eu des démocraties plus ou moins permissives et des dictatures plus ou moins féroces. La nouveauté, c'est que se sont répandues les mesures répressives ultra ciblées qui, au lieu de s'abattre sur une grande part de la population comme dans n'importe quel état fasciste vulgaire, se contentent de traiter principalement des ennemis désignés de l'État. Les mesures plus globales existent, certes, mais l'atteinte à la liberté, quoique réelle, demeure contenue dans des limites soigneusement calculées. Et ces dispositions générales, fichage, moyens d'enquête de haute technologie, recours à la délation, etc., ont pour objectif principal de trier ceux à qui on pourra ensuite réserver le traitement de faveur une fois qu'on les aura qualifiés correctement. Sauvageons, délinquants, terroristes, ultra-gauchistes, etc. On aura donc à peu près une démocratie pour la plus grande masse, enfin, une démocratie comme d'habitude, et une quasi-dictature pour les autres. Ce système encore en gestation n'a pas fini de produire ses effets.
Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou.
C'était donc un texte de Léon Matisse. Et pour continuer l'émission, on va vous parler d'une loi qui est en train d'être discutée au Parlement, une loi sur l'immigration. Et c'est donc dans un texte de l'Envolée qu'on a trouvé ce petit explicatif. Donc officiellement, avec cette loi, ce qu'il s'agit de faire, c'est de transposer 3 directives européennes en droit français. En fait, c'est faciliter toujours un peu plus les expulsions en allongeant le temps de rétention et en supprimant des possibilités de recours juridique, tout en créant les conditions d'immigration choisies avec une carte de travail européenne et des pseudo-protections juridiques en cas de licenciement. Alors, il s'agit de faciliter les expulsions, notamment en retardant la possibilité pour les sans-papiers de contester devant le juge des libertés et de la détention les décisions de placement en rétention et d'expulsion. La loi prévoit aussi de mettre les migrants sous bracelet électronique pour ceux qui ont des enfants avec eux. Elle sera de 5 jours renouvelable. Alors, je cite, « L'assignation à résidence avec surveillance électronique comporte pour l'étranger l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci. » Évidemment, le procédé avec qui a été homologué par le ministère, par le ministre de l'Immigration et selon leur dire, garantit le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. Bref, un vrai tour de force. Même Besson a rappelé que le bracelet était destiné aux personnes condamnées au pénal et qu'il ne convenait pas aux sans-papiers. Mais l'amendement a tout de même trouvé grâce aux yeux de l'UMP. Quant au PS, il s'est facilité de pouvoir aussi ainsi économiser des places en centre de rétention. On voit bien là que les centres de rétention sont bel et bien des prisons et que les bracelets sont vraiment là pour enfermer toujours plus de monde, comme dedans comme dehors. Un des autres aspects de ce projet, c'est de donner à la police la possibilité de faire des zones d'attente partout où plus de 200 papiers ont été arrêtés. Alors ça a été décidé suite à un événement qui s'était passé en janvier 2010 où il y avait eu 123 Kurdes sur les côtes corses. Ils ont été interpellés et tous transférés dans un gymnase et avant d'être dispersés dans plusieurs centres de rétention. Les juges, ils ont été contraints de les faire libérer parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités de procédure. Donc la réaction du ministère chargé de l'immigration ne s'est pas fait attendre en substance. Le dispositif législatif s'est adapté à de telles arrivées massives, d'où la nécessité d'une réforme. Du coup, maintenant, n'importe quel lieu pourra alors être réquisitionné pour devenir une zone d'attente. Voilà, ça c'est la nouvelle loi qui est en cours de discussion au Parlement. Et pour continuer, on peut vous passer une petite musique.
Bang bang.
Bang bang, je ne l'oublierai pas.
qui est servi de bande sonore pour Pulp Fiction, et donc, et c'est pas une fiction. En Suisse, vous l'avez tous vu, et les Suisses en premier, et à plus de la moitié que dorénavant, tout ce qui sera trop basané, il sera passé par la prison, devra retourner à la case maison, loin, loin, loin de la Suisse. Et donc, comme on sait que toutes les lois européennes ont un effet bang, bang, boomerang dans la gueule à tout le monde, on se doute à peu près, au vu de leur dernier texte aussi sur les minarets, tout ça, de ce qui laisse présager qui arrive un petit peu partout du...
En Europe.
Et froid, dans le monde entier. Du froid de l'Europe, quoi.
Et justement, pour donc mettre en place un peu toute cette politique sécuritaire, l'État fait bien sûr appel à des intermédiaires, donc... notamment la Croix-Rouge. Et pour commencer, un petit texte qui est sorti donc en l'été dernier, il s'est passé une action en juin dernier, au moment où la Croix-Rouge lançait une espèce de campagne, comme ils font tous les ans, nationale, pour récupérer un peu de pognon pour se financer, et notamment donc financer les expulsions. Il y a eu quelques individus qui sont allés foutre un peu l'ouaille dans la rue pour un peu dénoncer le rôle que jouait la Croix-Rouge, et qui n'était pas un rôle humanitaire, enfin qui l'est, et c'est sous forme de... sous couvert d'humanitaire, participer à l'enfermement et l'expulsion des sans-papiers. De là, s'en est suivi quelques embrouilles, avec bien sûr un appel à la police, voilà, des gens sont fait arrêter, et il y a eu une enquête de la PJ. À ce moment-là, est sorti un tract dont on va vous lire des parties. Parce que les États ont toujours eu besoin d'auxiliaires civils pour mener à bien leur mission de contrôle, de répression, d'organisation et de gestion de la misère. Parce que certaines associations ont toujours su tirer profit et argent des ententes que le pouvoir leur proposait. La Croix-Rouge française participe à la machine à expulser à plusieurs niveaux. En effet, dans toutes les évacuations de campements roms ou de certains gros squats, même bien avant le volontarisme politicard estival de Besson et consorts, elle est présente aux côtés des flics. Grâce à son sigle qui fait office de caution humanitaire, ses véhicules transportent les expulsés loin des lieux d'où on les a chassés, voire au commissariat. Le 14 avril 2003, les mains sur la tête, les Roms expulsés de Montreuil défilent sous l'œil bienveillant de la Croix-Rouge pour être fouillés, puis entassés dans les cars des CRS en partance pour les centres de rétention. Le 15 septembre 2009, lors du démantèlement d'un campement de Roms à Créteil, c'est elle qui prend le relais des flics pour le transport. Lors de l'expulsion des Roms de Chelles en juillet 2010, elle assiste à l'expulsion en distribuant des bouteilles d'eau. À chaque fois, les bénévoles ou permanents de la Croix-Rouge soignent les petits bobos, rassurent les vieux un peu perdus, tiennent la main lorsqu'elle n'est pas entravée, vérifient que les ceintures de sécurité sont bien attachées. Bref, une touche d'humanisme dans des situations qui ne seront jamais tolérables. Aucun témoignage ne doit sortir du centre. C'est une des clauses du contrat. Si un employé se risquait à déroger à cette règle, il serait poursuivi en justice par la Croix-Rouge elle-même.
Et donc, en fait, les collaborations varient en fonction des pays et des déclinaisons locales de la Croix-Rouge. En Italie, par exemple, elle assure directement la gestion de plusieurs centres d'identification et d'expulsion, c'est-à-dire des prisons où les personnes sans papier peuvent être enfermées pendant 6 mois en attendant d'être identifiées puis expulsées. Elle participe également au fichage ethnique des Roms ordonné par le gouvernement italien depuis 2008 en allant dans les campements relever les empreintes de leurs habitants, main dans la main avec les flics et les carabiniers. Ces données sont ensuite rassemblées par la Croix-Rouge, elle, dans une base informatique qui peut être consultée sur autorisation de la magistrature. Au Danemark aussi, la Croix-Rouge gère directement 7 des 9 centres d'asile présents sur le territoire. Les demandeurs d'asile déboutés qui refusent un retour volontaire mais ne sont pas expulsables en raison des conditions d'insécurité dans leur pays, c'est-à-dire l'Irak, la Somalie, l'Afghanistan, sont tenus de résider pour un temps indéfini dans 2 centres d'hébergement de la Croix-Rouge avec des avantages sociaux réduits au minimum. En Espagne maintenant, c'est la Croix-Rouge qui accueille les réfugiés qui débarquent. Et qu'elle accueille. Elle distribue un kit de vêtements, 2 chemises, des chaussures, un pull-over, une couverture, de l'eau, du thé chaud et des biscuits. Puis, il les livre à la police. Elle travaille aussi dans le centre d'identification des subsahariens capturés en mer. Ce centre, il a été ouvert par le gouvernement espagnol en 2005 en Mauritanie et il permet d'enfermer les candidats à l'immigration sur leur lieu de départ. Il est aussi surnommé Guantanamito, le petit Guantanamo, en référence aux conditions de vie infligées aux prisonniers. Sa gestion est affiliée à la direction régionale de la sûreté de Nouadhibou, à la Croix-Rouge espagnole et au Croissant-Rouge mauritanien pour une assistance humanitaire supplémentaire. Au niveau européen, la Croix-Rouge participe au charter organisé par l'agence Frontex, qui coordonne les activités des gardes-frontières dans les pays situés aux frontières extérieures, terrestres et maritimes de l'Europe. Ces charters ont permis de déporter 1622 personnes en 2009 et il est prévu qu'il en déporte le double en 2010. La Croix-Rouge est présente sur ces vols en tant qu'observateur neutre pour permettre aux États d'expulser dignement, avec humanité et en silence. Fièrement revendiquée par l'association, la neutralité et l'impartialité au cœur de l'expertise humanitaire, c'est tout simplement le silence. Un silence rémunéré, bien évidemment, pour les missions spécifiques et sous forme d'enveloppe des États. Un apolitisme donc, qui participe directement à la politique migratoire européenne. Un apolitisme qui contribue à faire croire que l'on peut scotcher, bâillonner, enfermer, expulser avec tendresse et raison.
On l'a pas souhaité, on l'a pas voulu, après nous avoir pillé, la France continue à nous humilier. Discrimination sociale, raciale, inégalité économique, répression, ouais, la France nous met la pression, c'est dans la tête que ça se passe, on veut pas se laisser faire, on veut notre part et du respect, conserver notre liberté, pas de menottes au poignet, c'est la guerre. On n'a pas souhaité, mais c'est la guerre. Grandir en cité, tu le sais, c'est la guerre. Inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. La France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre. On cherche à s'en sortir, ma soeur, c'est la guerre. Pour construire un avenir meilleur, c'est la guerre. On se bat pour nos parents, on comprend, c'est la guerre. On veut pas que nos enfants galèrent, donc c'est la guerre. On n'a pas souhaité, mais c'est la guerre. Grandir en cité, tu le sais, c'est la guerre. Inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. La France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre. On cherche à s'en sortir, ma soeur, c'est la guerre. Pour construire un avenir meilleur, c'est la guerre. On se bat pour nos parents, on comprend, c'est la guerre. On veut pas que nos enfants galèrent, donc c'est la guerre. Depuis qu'il y a l'euro, on souffre, c'est la guerre. La France est au bord du gouffre, c'est la guerre. Y'a plus que nulle part, c'est ouf, c'est la guerre. Bien sûr, c'est aux plus pauvres qu'ils ont déclaré la guerre. Hamza, au Renoir, on sert de bouc émissaire. Ils n'ont que projet pour nous, prison et misère. Si tu veux des sous et du respect, fais la guerre. J'ai beau aimer la paix, mais je peux pas nier, c'est la guerre.
Les mesures nécessitent, mon frère, c'est la guerre. Comment réussir à s'en sortir avec un petit salaire? T'as toujours l'impression de marcher les couilles et le cul à l'air. Sa mère, c'est le champ de bataille, son terre, terre. Unité, char d'assaut, tank, hélicoptère. L'État nous met un max de pression, mais on lâchera pas l'affaire. Car j'ai trop mangé la gamelle, côtoyé la misère. Le seum se libère quand les menottes se resserrent.
La guérilla urbaine pour mes parias, guerriers, le carton joue en série A. Cruelles sont nos ruelles, nos corps, nos politiques cherchent le duel. Juste des larmes et des corps au bout du tunnel. Des hauts enflammes en banlieue, en haut lieu, ça se liquide dans le milieu. Ça tranche dans les zones franches, ça rend bien périlleux. Je m'entends même plus crier, ça tire, tout se déchire dans ce brouhaha. Tellement de faits d'armes et de faits divers dans tous nos trouhaha.
On n'a pas souhaité, mais c'est la guerre. Grandir en cité, tu sais, c'est la guerre. L'inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. La France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre. On cherche à s'en sortir, ma soeur, c'est la guerre. Pour construire un avenir meilleur, c'est la guerre. On se bat pour nos parents, on comprend, c'est la guerre. On veut pas que nos enfants galèrent, donc c'est la guerre.
De la classe ouvrière, on a les armes pour faire la guerre. Je me rapproche de la trentaine et toujours là sur le terre-terre. Moi j'ai qu'un fric, blackbuster, je 40 ans après c'est la même. Ne fais pas le profiter vos points, c'est nécessaire. Que celui qui veut la paix prépare la guerre, croise le fer. Je démarre tellement vite, et vite de regarder de travers. Alors je m'habille Rikaki avec une capuche sur la tête. On tire en l'air pour faire la fête, on tire sur toi pour faire la guerre.
C'est la guerre, dans les rues les jeunes charbonnent. Vois un regard ça se code, par rapport entre nous et les forces de l'ordre. C'est la guerre, y'a des putras, des secrets et des cisras. Dehors c'est la jungle, ça hésite pas gros. C'est la guerre, l'État nous donne des restes. Depuis tout petit on mange des miettes. En attendant le mec croqué dans l'assiette. C'est la guerre, on est souvent sur les nerfs. Des cités armées, à l'autre combien c'est pour aller jobber.
Dans ce monde d'opportunisme, moi chacun frère résiste. Hardcore pour qu'on existe, encore vivant trop de racistes. C'est la guerre, faut qu'on s'unisse, surtout pas qu'on se divise. C'est la guerre dans nos rues, jusqu'à l'industrie du disque. C'est la guerre du plus gros bif pour la mif. Faut qu'on s'en sorte mec, je suis resté authentique. Je veux que le fric soit pas ma porte mec. C'est la guerre, je laisse pas mon tri. Mon quotidien n'est pas fashion. Sois déterminé, sois brave ta gueule mon pote reaction.
On n'a pas souhaité mais c'est la guerre. Grandir en cité, tu le sais, c'est la guerre. L'inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre. La France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre. On cherche à s'en sortir, ma soeur, c'est la guerre. Pour construire un avenir meilleur, c'est la guerre. On se bat pour nos parents, on comprend, c'est la guerre. On veut pas que nos enfants galèrent.
rappelle pas sa jeunesse. C'est la fléchette à la fin du mois, le chômage est à la baisse. C'est la guerre dans nos ghettos, l'État n'est pas délaissé. Sans doute et toute la situation, ta chair est bonne nous débarrasser. Même entre eux, c'est la guerre entre Irakiens et Sarkozy. Mais leur discrimination positive, leur loi arrive. Ils parlent pas d'intégration, bien dans nos banlieues, c'est la guerre. Rappelle-toi des émeutes, demain ça sera pire qu'hier.
C'est la guerre, on l'a commandé par nous. 100% Zermi qui a pris ma vie à sel trou. Sache que, au fort que l'État est Babylone, on représente toutes les familles nombreuses élevées par une femme sans homme. Je réponds à l'appel, j'ai la haine, ils m'ont coupé les vives, c'est ma raison d'être. Cette guerre, c'est ma raison de vivre, rien dans le vide, c'est sec. Et les soucis nous creusent tous la tête, les sous-tous s'achètent, marre des têtes. TVA, impôts, taxes, c'est la
un
guerre.
Un vide à remplir et une arme au milieu de mes chaussettes, c'est la guerre. Une dette policière, chauffée, 40 degrés, cul sec, 10 000 voyous au vol, Audi Q7, bras de fer avec la guardia civile, lit de poudre, plaquette cachée, pense à sa famille, la nourrir, y'a des causes pour lesquelles faut être prêt à mourir, c'est la guerre, sirène, Bouna Izihed, Palestine, Jihad, Hygène, Silet, guerre.
Et voilà, donc on parlait des sans-papiers. La semaine dernière, on vous a parlé de ce qui s'est passé au centre de rétention, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques évasions. Donc il y a quelques sans-papiers qui ont réussi à s'évader. Et à l'intérieur, comme ça se passe régulièrement, donc en France, en Italie, un peu partout, il y a des mouvements de révolte qui naissent et qui s'organisent. Et donc on va vous passer un petit extrait d'une lettre de prisonniers qui étaient à l'intérieur et qui ont fait des appels à la solidarité à l'extérieur. Et il y a eu plusieurs manifs devant le centre de rétention de Vincennes.
Depuis les évasions.
Depuis les évasions. Pour un peu foutre le bordel autour de ça, quoi.
On voit du centre de rétention de Vincennes qui avait brûlé, qui a donc été refait à neuf, là. Donc témoignage.
Qui n'arrête pas les rébellions.
Après l'évasion et la révolte, témoignage d'une personne retenue à Vincennes. 22 novembre. Ce week-end, il y a trois personnes qui ont essayé de s'évader. Il y en a un qui s'est fait attraper, les flics, ils l'ont massacré. Ils se sont échappés parce qu'ils avaient un vol le lendemain. Et c'est des gens qui n'ont personne dans leur pays. Ils ont perdu le contact avec leur famille. Ils n'ont vraiment pas envie de rentrer sûrement. C'est pourquoi ils ont fait ça. En plus, la bouffe ici, c'est de la merde. C'est sale, c'est vraiment de la merde. Franchement, c'est la galère. Ils ont refusé de voir le médecin parce qu'ils n'ont pas de problème de santé, je pense. On n'en a rien à foutre des médecins. Ils veulent la liberté. Voilà, c'est tout. Quand on va voir le médecin, il nous pose des questions, si on a des problèmes, si on est suivi par des médecins dehors, quels médicaments on prend, par exemple. Moi, je fume beaucoup de shit. Pas beaucoup d'alcool et j'utilise des cachetons. Le médecin a dit, ok, on va vous donner des traitements. Et là, j'attends. Je commence à être stressée. C'est pas bien. Ici, il y a des médicaments qui calment, qui endorment. Et un médicament qui rend fou. Il y a des gens ici qui n'ont pas l'habitude. Et dès qu'ils le prennent, ils deviennent fous. Ils sont plus les mêmes. Les médicaments qu'ils donnent le plus, c'est du Valium et Rivotril. Des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui te mettent en dehors de toi. T'es plus le même après. T'as plus de tension. T'es déprimé. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est dangereux quand même. Ils peuvent faire n'importe quoi. C'est grave, quoi. Ils ont posé des questions au groupe. Pourquoi vous ne voulez pas voir le médecin? Normalement, c'est pas obligé de voir le médecin. À l'arrivée, c'est obligé. Peut-être, ils l'ont déjà vu. Qu'ils ont pris des trucs, ça les a rendus malades. Peut-être que c'est pour ça. Ils ont refusé de faire la même chose. Les gens qui se sont échappés en avaient marre d'être ici. Ça faisait 30 jours, d'autres 25 jours qu'ils étaient là. Toujours la même bouffe. Il y en a qui ont maigri. Ils ont perdu des kilos avec le stress et tout ça. Les gens n'ont pas l'habitude en plus avec la bouffe de merde. Il y en a qui ont vu que le lendemain ils avaient un vol. Il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui sont suicidaires aussi. Ils préfèrent mourir que rentrer chez eux. Parce que là-bas, ils n'ont personne. Ils n'ont pas de famille. Ils vont crever de faim là-bas. Je te dis franchement, ici on mange, même si t'as faim. Tu vas n'importe où, à l'armée du salut, n'importe où, tu manges. Là-bas, y a rien. Même rentrer comme ça, sans rien, même pas d'affaires, même pas de sous. Franchement, ça fait mal au cœur. Y a des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont ici, et rentrer comme ça, du jour au lendemain, c'est impossible. Lors de l'évasion, il y a eu plein de renforts de police. Il y en a qui se sont fait attraper sur l'autoroute. Il y en a qui ont réussi à s'échapper. Les flics, ils couraient partout. C'est les policiers d'ici qui étaient dans le centre. Il n'y en a pas d'autres qui sont rentrés. Pour s'évader, ils ont réussi à casser une vitre. Les vitres ici, elles sont incassables. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à forcer le grillage, petit à petit. Et voilà, ils se sont échappés. Ils ont grimpé au grillage. Ils se sont fait du mal parce qu'il y a des trucs qui piquent au grillage. Mais il n'y en avait rien à foutre. Ils voulaient s'échapper, ils ont réussi.
Thank you.
88.4 sur les ondes de Radio Galère. Et donc pour continuer cette émission un peu pot-pourri, on va vous passer un...
Pas un peu pourri, un peu pot-pourri.
Pot-pourri, j'ai dit. Un petit mélange de plein de choses, quoi. Et on va vous passer un petit montage de basse intensité qui a lu un extrait d'un bouquin qui s'appelle Nous voulons tout de Balestrini.
fait 4 heures et ça a été le début d'une bataille qui allait durer plus de 12 heures. Les flics avançaient en faisant des moulinets et en chargeant. De l'autre côté, c'était les carabiniers qui avançaient pour nous enfermer dans une tenaille. Nous, on ne s'est pas dispersés. On a répondu aussitôt en jetant des pierres qu'on ramassait un peu partout. La plupart d'entre nous s'est porté dans un pré à côté du Corso Traiano, où se trouvait un chantier de construction. On s'est muni de bouts de bois, de bâtons, de matériaux pour faire des barricades.
Les flics, dans leurs fourgons blindés, entendaient ce bruit continuel, cette formidable pluie de pierres qui tombait sur les fourgons, et ils ne voulaient pas entendre parler de descendre. Nous avions encerclé tous les véhicules. Nous courions tout autour en leur lançant des pierres. S'ils avaient fait mine de descendre, on les aurait massacrés à coups de bâton. On a aussi essayé de renverser quelques-uns des fourgons. De l'intérieur, les types terrorisés disaient aux chauffeurs de partir, et de fait, ils ont mis les bouts, tous.
Les gens du Corso Traiano en avaient plein le dos de toutes ces grenades lacrymogènes qui atterrissaient sur leurs balcons, dans leurs fenêtres, et de la fumée qui entrait dans les maisons. Les flics cognaient tous ceux qui se trouvaient aux portes, tous ceux qui leur tombaient sous la main, surtout les mômes. Ils s'étaient tous mis à se battre aux côtés des ouvriers.
Et dans d'autres communes de la banlieue sud de Turin, aux dernières nouvelles, il y avait des accrochages. Dans tous les quartiers prolétaires, on se battait. Devant l'université, la violence des charges augmentait, la bagarre prenait de l'extension sur le boulevard. On décide de se partager en équipe d'intervention et de se diriger vers les différents quartiers de la ville en lutte. Entre autres, pour vérifier jusqu'à quel point les accrochages s'étaient généralisés. Je suis dans une équipe de camarades qui va à Nichelino. Pour aller à Nichelino, il fallait repasser par le Corso Traiano.
On a été de retour Corso Traiano vers les 6h30, et on y a trouvé un champ de bataille incroyable. Ce qui s'était produit, c'est que les maçons et autres ouvriers qui habitaient dans le quartier commençaient à rentrer chez eux. Ils n'avaient pas fait grève, ils ne savaient que dalle. Ils rentraient chez eux, et ils ont vu toute cette fumée, toute cette flicaille, la rue remplie de pierres, de machins. Alors ils se sont aussitôt joints aux camarades, et ils ont commencé à balancer des matériaux de construction au milieu de la rue, à construire des barricades. Parce qu'il y avait beaucoup de chantiers de construction dans les alentours, et on trouvait des briques, des morceaux de bois, des carrioles, des tonneaux de fer.
Ils mettaient tout ça au milieu de la rue, ils édifiaient des barricades avec les autos, puis ils y mettaient le feu. La police se tenait à distance au bout du Corso Traiano. De temps en temps, ils partaient à la charge en faisant le grand cirque. Ils dégageaient les barricades sous les volets de pierre que leur lançaient les gens, qui se carapataient ensuite dans les prés d'à côté, et qui revenaient quand la police était partie. Ils rapportaient les matériaux sur la chaussée et reconstruisaient les barricades. Ils arrosaient d'essence et quand la police revenait à la charge, ils mettaient le feu. Ils enflammaient aussi des pneus qu'ils faisaient rouler en direction des flics. On commençait même à voir de plus en plus de molotov.
Sur une barricade, un écriteau portait « Ce que nous voulons, tout ». Il continuait à arriver des gens de tous les côtés. On entendait un bruit sourd, continu. Le tam-tam des pierres frappait en cadence contre les pylônes de l'électricité. C'est ce qui faisait ce bruit sourd, impressionnant, continu. La police ne réussissait pas à encercler et à passer au crible tout ce quartier plein de chantiers, d'ateliers, de HLM et de prêts. Les gens continuaient à attaquer, c'était toute la population qui se battait. Les groupes se réorganisaient, attaquaient d'un côté, se dispersaient, revenaient à l'attaque d'un autre côté. Ce qui les entraînait maintenant, c'était la joie plus que la rage. La joie d'être finalement fort, de découvrir que ces revendications qu'ils faisaient, que cette lutte qu'ils menaient, c'était les revendications de tous, la lutte de tous.
Ils sentaient leur force, ils sentaient qu'il y avait dans toute la ville une explosion populaire. Ils sentaient réellement cette unité. Alors, chacun des cailloux qui étaient lancés sur la police, c'était de la joie et plus de la rage. Parce qu'en somme, nous étions forts, tous ensemble. Nous sentions que la seule façon de vaincre notre ennemi, c'était ça, de le frapper directement à coups de pierre et de bâton. On cassait les enseignes lumineuses, les panneaux de publicité. On déterrait et on faisait tomber à travers la chaussée les feux de signalisation et tous les poteaux qu'on rencontrait. On essayait de faire des barricades partout, avec n'importe quoi. Un rouleau compresseur qu'on avait renversé, des groupes électrogènes brûlés. Il commençait à faire sombre et on voyait partout les feux, au milieu de la fumée des gaz, les traces des molotov, les montées des flammes.
Récit de la bataille du Corso Traiano qui s'est déroulée à Turin le 3 juillet 1969, suite à plus d'un mois d'insubordination ouvrière à la Fiat. Ce récit est extrait du 10e chapitre de Nous voulons tout de Nanni Balestrini qui vient d'être réédité. Contact nousvoulonstout@gmail.com. On en dit quand même un peu plus sur ce qu'il y a dans le bouquin. En fait, ça commence dans le sud de l'Italie. Comme des dizaines de milliers de jeunes, cet anonyme qui raconte son histoire doit émigrer vers les grandes villes industrielles du Nord, Milan, puis bien sûr Turin. Turin et ses 150 000 ouvriers Fiat, une ville-usine où seuls sont autorisés à dormir dans la gare ceux qui peuvent montrer leur carte de travailleur Fiat. Or, cet ouvrier du Sud, comme une grande partie de ses compatriotes, n'en a rien à foutre du travail. Ils sont étrangers à la culture ouvrière et syndicale du 19e siècle. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir manger et dormir. Ils savent bien que le travail ne rend pas libre. de cette insoumission première au travail obligatoire, faite de refus des cadences et de rixes avec tous les chefaillons, ainsi que des rencontres avec divers groupes étudiants et militants, va naître un grand moment de lutte à Turin et plus généralement en Italie. C'est l'automne chaud. Une brève chronologie en retrace les grandes lignes en fin de bouquin. Ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire, c'est la façon dont une lutte ouvrière construit son autonomie en débordant complètement les syndicats et se connecte avec un mouvement plus général de révolte qui passe par la grève des loyers, les autoréductions de factures, etc. Ce récit n'est pas arrangé du côté des reliques d'un autre temps. Il nous parle de travail, de syndicalisme, de refus en acte de la vie que veulent nous imposer l'État et les patrons, de construction de luttes articulées et fortes qui n'ont pas pour but d'aménager nos peines, mais de prendre ce que nous voulons et de détruire le reste. On cite un dernier extrait du bouquin, bien révélateur du ton général du récit, mais surtout de l'ambiance de l'époque.
Aller au Nord pour le développement, parce que ça leur servait à ceux du Nord, notre sous-développement pour leur développement à eux. Qui est-ce qui a fait le développement du Nord, tout le développement de l'Italie et de l'Europe? C'est nous, les journaliers du Sud. Comme si c'était deux choses différentes, les ouvriers du Nord et les journaliers du Sud. Parlez-moi du sous-prolétariat, parce que c'est nous les ouvriers du Nord. Parce que c'est quoi Turin, si ce n'est une ville du Sud? Qui est-ce qui y travaille? Là-haut, en fin de compte, sur le Corso Traiano, ça se passe comme à Battipaglia, quand les gens s'aperçoivent qu'ils n'en peuvent plus. Avec toutes ces histoires de travail, au sud ou au nord, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, on est toujours baisé. Alors on commence à comprendre que la seule chose à faire, c'est de tout brûler. Comme ça se produira partout dans pas longtemps. Et alors ici, on changera tout ça. Finalement, on les enverra se faire foutre, eux et leur travail de merde.
Les mecs, je fais un rêve cette nuit. J'ai rêvé que j'avais du travail. On rigole.
Insécurité renforcée dans ma boîte crânienne. Stigmatisé, les dépôts de merde jetés des visées à la pilule qui te change qu'on haleine. Mais ne rendons tes faux avant que je vienne cadavérique emblème. Je crache mes poumons et autres que trucs qui ne servent à rien. Et après ça on dit que tu maîtrises ton destin, bah ouais. Ta chouette de s'échouer avant que ce soit les autres qui le fassent. Je le frappe en eux vu le nombre de zombies à la masse classe. C'est pas pour le moment, ce qui me reste de vie est encore devant. Et puis chérie on va faire un cred et acheter un auvent. Partir voir la mer avec les enfants. Avec un peu de chance on pourra les noyer ou les troquer contre une semaine de thalasso à Saint-Tropez. T'es choqué, t'inquiète, j'en ai pas de mioche, sont tous morts. Occupés par la morale et par le système sans aucun remords. Un phrasé carnivore sur la version sont conjurés de sort. Je sors, t'abîmes mes neurones, enfermé dans une matrice qui ressemble au jeu vidéo trône. On veut faire toi un clone, identique aux voisins, pense pas, agis comme on t'impose. Si je veux poser ma prose, c'est que je peux pas faire autrement. Ménager les mots, c'est bon pour les pantins du gouvernement. On est pas paranoïaque, je préfère, mais ça me fait yak. La lucidité crève et flingue ses hôtes. Une vieille douleur interne qui te remue et te pète les côtes. Une vieille rengaine qui pique les nerfs et donne à ta life un goût de chiotte. Une vieille rengaine qui pique les nerfs. Donne à ta life un goût de chiotte. Donne à ta life un goût de chiotte. J'ai dessiné les ruines de ma ville dans un coin secret de ma teuté. Laissé l'image des quartiers soi-disant hostiles pour celles de rues commerçantes aux vitrines explosées. Des rêves de banques embrasées, même pas pour la thune, juste pour le plaisir. Voir cramer ce qui nous frustrait. Du commerce à proscrire, nos vies aliénées. La rage à prescrire, à qui la veut c'est donné. Plus qu'à la prendre, la ruminer et la recracher autour d'Ouam. Des murs de béton, zonzon, barreau à la conce. Guitare score résonne comme la faux sur la teuté. Tous les dictates qui nous assomment, addicts à cet environnement que je déteste. Ludique, mais résolument obsolète. Je teste la graisse histoire de me sentir un minimum en live.
life, fallait d'un knife, je cut. La galette sur laquelle tu poses sec, je tombe net. Cette version, on va la reprendre, mec. L'absurde, le bon sauf de ce dégoût de la masse, sort. Mon aliénation, comportement en place, rase les murs de ma conscience, les neurones des autres, je lasse. Pose sur le kick, mon ego est classe. L'absurde, le bon sauf de ce dégoût de la masse, sort. Mon aliénation, comportement en place, rase les murs de ma conscience, les neurones des autres, je lasse. Pose sur le kick, mon ego est classe. L'absurde, le bon sauf de ce dégoût de la masse, sort. Mon aliénation, comportement en place, rase les murs de ma conscience, les neurones des autres, je lasse. Pose sur le kick, mon ego est classe. L'absurde, le bon sauf de ce dégoût de la masse, sort. Mon aliénation, comportement en place, rase les murs de ma conscience, les neurones des autres, je lasse. Pose sur le kick, mon ego est classe.
Et voilà, donc c'était pour ceux qui n'avaient pas reconnu au tout début les Dead Kennedys, Kill the Poor. Et ensuite c'était donc l'extrait de Balestrini, et le morceau qui a fini c'était de Radical Crooner.
Et voilà, et c'est donc issu d'un site qui s'appelait, d'une émission de radio qui existait sur Radio Galère qui s'appelle Basse Intensité. Et donc sur le site, qui est un site, vous pouvez trouver pas mal d'archives, de textes, d'enregistrements à écouter. Voilà.
Basse Intensité. Et en sachant que le site, il est régulièrement mis à jour et il y a des brochures qui sont mises en ligne au fur et à mesure que ça sort, quoi.
Voilà.
Et on vous en reparlera dans deux semaines.
Voilà.
A priori, au sujet des
sur les Oscangaceros.
Voilà, maintenant on va vous parler de nos lectures, comme on l'a déjà fait.
Petit passage, ouais, voilà.
Peut-être on peut juste vite fait dire celle-là, puisqu'on va en parler peu, donc c'est Outrage. Donc voilà, une des chaînes s'est abonnée et a commencé à essayer de classer un peu les sorties.
Une des chaînes fait du zèle.
Voilà, une des chaînes un peu essaye de se documenter. Donc voilà, on vous parle de nos lectures, notamment, bon là on en a reçu pour automne 2010 le numéro 9 de Outrage, donc qui se proclame incendiaire gratuit sur Lyon et ses environs. Et où donc notamment ils ont une première partie sur première ronde. Ça tape un peu dans tous les sens pour certains contre les insurrectionnalistes et d'autres pour. Donc là voilà, c'est plutôt pour.
Ce qui introduit très bien
le sujet suivant. Et donc trouvable, téléchargeable sur internet. On pourra pas vous dire où le trouver sur Marseille parce que c'est vraiment très lyonnais.
Ouais, si ce n'est que vous pouvez le trouver dans des lieux tels que le Fédermolet de Singe.
Le seul problème, comme l'envolée, la plupart des journaux dont on vous parle.
Sinon, si vous voulez lire, c'est internet, il suffit de taper Outrage et vous le tombez dessus, vous pouvez le télécharger, quoi.
Voilà, et sinon, de vous parler d'une autre revue.
Et alors, pour continuer justement, donc en parlant d'insurrection, on voulait vous présenter une autre revue qui s'appelle Accord perdu. Alors, accord en deux mots.
Précise.
Faut expliquer, voilà. Qui est une revue anarchiste internationale dont on vous a déjà parlé ou qu'on a déjà utilisé à la radio, voilà. Donc, ils en sont au troisième numéro. Et là, on vous le présente parce que ils ont fait un numéro par rapport au contexte international dans lequel on est. C'est-à-dire que, bon, pour aller assez vite, on remarque depuis quelques temps un capitalisme en restructuration, pour eux en crise, la paix sociale s'effrite, l'état social disparaît petit à petit. Donc on voit apparaître à travers le monde, donc que ce soit en Europe ou d'autres continents, plusieurs révoltes. Alors ça va de la révolte en Argentine, donc l'état qui fait faillite et... une révolte, un mouvement social en Argentine qui dure plusieurs mois. Ça peut être la Grèce, comme on vous en a parlé longuement et très longuement sur la radio. Ça peut être ce qu'on voit par exemple en Angleterre en ce moment, ou ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, donc avec des mouvements qui partent dans la rue et qui finissent un peu en émeute ou en mouvement de rue, voilà. Et ça peut être aussi ce qui s'est passé en 2005 dans les banlieues lyonnaises, quoi. Dans les banlieues parisiennes, et après sur toute la France, où on voit des débordements et des expressions de colère qui... Alors c'est quoi le lien ? Enfin voilà, la question, c'est le lien qu'il peut y avoir entre tous ces mouvements, entre tout ce qui se passe à ces moments-là, si ce n'est l'expression d'un ras-le-bol général et d'une vie de merde qu'on pourrait nommer l'expression de la guerre sociale, entre autres. Et voilà, donc eux ils ont essayé de se prendre un petit peu la tête là-dessus, d'essayer de comparer un peu qu'est-ce qui était les points communs entre ces différents événements, qu'est-ce qui n'était pas les points communs, les limites qu'il pouvait y avoir et tout, en essayant de pas partir de ce que, alors je cite, nous voudrions, mais de ce qui est récemment arrivé et se produit encore dans certaines parties du monde, sans être partisan d'une quelconque déterminisme historique qui ferait d'elles qu'elles avancent dans une direction donnée, quelle qu'elle soit, mais nous souhaitons analyser les relations entre les rapports sociaux déterminés par le capital et la possibilité de leur subversion. En gros, un petit taf sur, comme ils appellent, un effort pour tenter de poser des hypothèses à partir de ce qui s'est passé, comme de ce qui pourrait advenir. Donc apprendre de l'histoire, affiner et transformer la théorie et l'action sur la base de l'expérience. Et parce qu'on peut se le dire, enfin en tout cas moi je me pose la question, quand il y a tout ce truc qui apparaissent, c'est clair qu'il y a toujours peut-être un petit espoir de se dire oh, voilà, il se passe ça, ça se révolte à tel endroit, dans des populations qui sont a priori qui évoluent pas dans les mêmes milieux, quoi, que ça soit dans les milieux un peu politiques comme en Grèce, donc anarchistes, tous les mouvements sociaux, plus généraux, que ça soit en banlieue, que ce soit des révoltes. Est-ce qu'on peut y mettre un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien à y mettre? Et parce qu'on voudrait peut-être que chaque lieu et chaque expérience se parle, mais avant tout, faudrait-il que les oreilles soient attentives, qu'elles soient loin de tout dogme, de toute haute célébration et de tout fétichisme révolutionnaire. Oh, alors, si vous pouvez réagir, vous avez le droit de réagir sur ce que je dis dans mes ordres.
Tout à fait, trop
la pédale. Et du coup, en essayant de sortir aussi des vieilles théories révolutionnaires qui essaient d'infirmer un peu le vieux schéma qui était tout fait, c'est-à-dire agitation, mécontentement, prise de conscience, émeute, insurrection, révolution. Et donc d'espèce de mettre une norme dans les telles et telles expressions de violence. Et voilà, donc essayer de casser un peu ce schéma.
Ouais, c'est le schéma même au-delà des dogmes. À des moments, c'est quasiment Madame Soleil, où certains prédisent que ça soit l'écroulement de lui-même du capitalisme ou une insurrection qui, d'apparence, viendrait de suite. De là, on le sent. Bon, il y a un moment, effectivement, pour essayer de tirer parti de tout ce qui se passe, de toutes les luttes, de toutes les résistances en cours, il faut effectivement un moment un peu analyser, casser les cases, casser les soi-disant évidences et surtout les
mettre une norme, un jugement de valeur entre différentes
et puis surtout éviter de mettre les uns contre les autres, qui est la pratique de base où effectivement il faudrait faire plus comme ci ou plus comme ça. Enfin bon, bah, je te laisse.
Et à contrario aussi de pas tomber dans le panneau de une émeute, une insurrection et de fait
oui, il y a un pas vers la révolution mathématique, et ça tombe pas du ciel, quoi.
Voilà. Et voilà, qu'on serait donc pas en présence de progression, mais d'explosion chaotique dans lesquelles seules les subjectivités agissantes en dialogue peuvent déterminer le futur. Bref, c'est une longue discussion et de longues pages sur lesquelles ils essaient de me comparer un peu dans tous ces événements. Et donc si vous voulez le choper, vous pouvez le choper sur internet. Et en attendant, en fait, ils ont passé une lettre de Bonanno, une vieille lettre de Bonanno, et comme c'est un petit clin d'œil à lui, je vais lire une de ses lettres.
Donc il avance à donc Alfredo Bonanno, dont vous a parlé déjà un petit peu, parce que il a été récemment arrêté, ça fait déjà 4 ans arrêté, mais récemment jugé en Grèce pour des braquages, donc qui étaient clairement liés à une mouvance politique, puisque lui-même le revendique. Il a été donc condamné il y a quelques jours à donc 5 ans de prison ferme, ayant déjà fait plus de 3 ans. Il a été remis en liberté il y a quelques jours, et donc voilà, c'était quelqu'un qui a déjà fait pas mal de prison aussi en Italie, puisque ça avait été un militant activiste de la lutte en Italie avant d'aller en Grèce.
La révolution n'est pas un mythe idéal qu'on peut utiliser comme simple référence, parce que c'est un fait concret. Elle doit se construire jour après jour, y compris lors de tentatives plus modestes qui n'ont pas toutes les caractéristiques libératrices de la véritable révolution sociale. Ces tentatives plus modestes sont les insurrections. À travers elles, le mouvement des soulèvements des minorités plus exploitées et des minorités plus sensibilisées politiquement ouvre la voie à de possibles soulèvements des couches toujours plus larges d'exploités, en un flux de rébellion qui peut déboucher sur la révolution, mais peut aussi se conclure par l'instauration d'un nouveau pouvoir ou la reconfirmation sanglante du vieux. Dans ce cas, bien que l'insurrection ne se soit présentée comme un soulèvement libérateur, elle se conclut amèrement par le rétablissement de la domination étatique et patronale. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Il s'agit du déroulement naturel des choses. L'insurrection est l'élément indispensable de la révolution. Sans elle, sans une longue et douloureuse série d'insurrections, il n'y aura pas de révolution, et le pouvoir continuera de toute façon à régner en pleine possession de ses forces. Nous ne nous décourageons pas. Encore une fois, obstinément, nous nous préparons et luttons pour l'insurrection qui viendra, petit morceau de la grande mosaïque future de la révolution. Certes, le capitalisme affronte des contradictions profondes qui le poussent à des processus d'ajustement et d'évolution, afin de surmonter les crises périodiques qui l'affligent. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur l'attente de ces crises. Lorsqu'elles se présenteront, elles seront les bienvenues si elles répondent aux qualités requises pour être des éléments accélérateurs du processus insurrectionnel. Entre-temps, nous nous préparons de notre côté et nous préparons la masse exploitée à l'insurrection. C'est pour cela que nous pensons que les temps sont toujours mûrs pour la prochaine insurrection. Mieux vaut une insurrection qui échoue que sans hésitation, qui font échouer sans occasion, d'où aurait pu éclater la révolution définitive. Préparer l'insurrection signifie préparer les conditions subjectives qui permettent à une minorité anarchiste spécifique de créer les conditions indispensables au développement du processus insurrectionnel. Si l'insurrection est un phénomène de masse et risque d'avorter immédiatement si ce n'est pas le cas, son commencement est toujours le résultat de l'action d'une minorité décidée, d'une poignée de personnes courageuses qui attaquent les points les plus significatifs de l'objectif partiel à atteindre.
Donc voilà, après une insurrection, une autre insurrection, jusqu'à la révolution.
Il est encore, c'était écrit.
Il est encore en 1980, ouais.
Bon, ouais, un vol d'hirondelle.
Texte, en fait, je n'avais pas vraiment lu le dernier paragraphe, ce qui arrive parfois dans les mauvaises préparations d'émissions de radio. Abonano est un personnage qui est intéressant, mais il a écrit de grosses conneries,
des fois,
ce que je viens de vous lire. Et voilà, ce qui est juste intéressant là-dedans, c'est de se poser la question de qu'il n'y a pas de schéma et qu'il n'y a pas de choses toute faite et que on n'a surtout pas la solution pour arriver à une situation révolutionnaire, mais qu'en tout cas dans la vie de tous les jours on peut lutter et commencer par se réapproprier les mots, les murs et notre vie de tous les jours, quoi.
Voilà, ça c'était donc la petite remise en cause. Sinon, donc, parce que un peu planté en plein milieu, pour ce qui est effectivement de la revue À Corps Perdu, c'est une revue un peu des fois compliquée à lire. C'est très très approfondi. Et donc, bon, bah voilà, du coup, il faut y prendre la peine. Donc là, sur le numéro là qui vient de sortir, il y a un dossier donc particulier sur l'insurrection. Et donc sur la révolte incendiaire de 2005 en France, sur bien sûr la Grèce et l'Argentine, parce que bon, c'est un peu les modèles d'inspiration en ce moment. Ça taille un petit peu sur les insurrectionnalistes, mais bon, c'est la vie, la critique est importante et intéressante. Et poursuivre, moi j'ai essayé d'aborder un sujet sur à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter sur ouais, vraiment À Corps Perdu.
À Corps Perdu, c'est pas perdu encore. Bon.
Voilà, moi j'aurais voulu essayer de vous parler d'un sujet, révolutionnaire. C'est pas que facile. Alors le sujet révolutionnaire, vous entendez bien, ça dépend de quel point de vue on se place. Et y a-t-il autant de sujets révolutionnaires que de théories révolutionnaires, ou bien autant de théories révolutionnaires que de sujets révolutionnaires?
Répète-toi.
Donc, est-ce qu'il y a autant de sujets révolutionnaires que de théories révolutionnaires, ou bien autant de théories révolutionnaires que de sujets révolutionnaires? En partant du principe que le sujet révolutionnaire n'existe pas, alors, il y a autant de sujets révolutionnaires
que de théories révolutionnaires.
Allez.
Well, what we wonder. You're such a success.
Quoi, des fois, au lieu de dire une connerie, on mieux se
taire. You're pretty secretary. Ah, she say you are the best.
Oh, ça file le blues.
You face always smiling. Say you're stupid, you do. But I know inside you got dancerless blues. Those custom made triggers that you offer to me.
Donc y a-t-il autant de sujets révolutionnaires que de théories révolutionnaires, ou bien autant de théories révolutionnaires que de sujets révolutionnaires? Et qu'en partant du principe que le sujet révolutionnaire n'existe pas, alors il y a autant de sujets révolutionnaires que de théories révolutionnaires. Mais si le sujet révolutionnaire existe, alors qui est-il? Ouais, ça fait pleurer pour la peau d'un flic. Orson Blues, ouais, donc voilà, si le sujet révolutionnaire existe, alors qui est-il? Premièrement, déjà, apparemment, il n'a pas besoin d'être révolutionnaire, ce qui sent déjà un peu la caricature. Mais alors, peut-être, c'est ce jeune métis mutin armé des banlieues Black Burr qui n'a rien à perdre. Ou plus exactement, prêt à perdre ce qu'on lui propose ou impose. C'est-à-dire un travail de merde, dans un quartier de merde, pour une vie de merde. Rien de très excitant. Et en plus, il le voit tous les jours, avec des manœuvres intérimaires, manutes, agents de sécurité, surveillants, larbins. Non, c'est vraiment pas excitant. Surtout quand on rêve. Quand on rêve non pas de révolution, mais quand on rêve de devenir riche. Et ou voire célèbre. Alors chanteur de rap, footballeur, vendeur de voitures de luxe, ou même parrain. En attendant, c'est survêt de basket, casquette sur la tête, et comme je vous l'avais dit, ça sent un peu la caricature. Yvan, il fume un peu de toshi, habite encore chez ses vieux. Il squatte une entrée avec sa bande, où il discute, brasse, refait le monde, et se dit, une seule solution, la révolution. Ça tombe bien, en plus ça rime. Mais sinon aussi, peut-être le sujet révolutionnaire, ça serait l'émeutier, le casseur, sans âge et sans visage, blanc, black, bloc, qui est prêt à tout perdre. Ou plus exactement, prêt à perdre ce qu'on lui propose ou impose. C'est-à-dire un travail à la con, dans un quartier à la con, pour une vie à la con. Rien de très excitant. Et en plus, il le voit tous les jours autour de lui. Infirmier, instit, fonctionnaire, commercial, au service d'eux. Non, c'est vraiment pas excitant quand on rêve. Quand on rêve, non pas de révolution, mais quand on rêve de devenir riche et ou célèbre. Écrivain, metteur en scène, avocat, politicien, ou bien même élu. En attendant, tout de noir vêtu, capuche sur la tête, et comme je vous disais, ça sent toujours la caricature, il fait pousser et fume de l'herbe, passe souvent chez ses vieux et squatte une baraque avec ses potes où il discute, brasse, refait le monde et se dit une seule solution, la révolution. Et là, ça tombe bien d'ailleurs parce que ça rime toujours. Ou alors, encore un troisième sujet révolutionnaire, ça pourrait être le jeune prolétaire précaire, bloqueur, piqueur, gréveur, ayant déjà tout perdu, ou plus exactement, sachant déjà ce qu'on lui impose, c'est-à-dire un travail à chier dans un quartier à chier pour une vie à en chier. Rien de très excitant. Et en plus, il le voit tous les jours autour de lui. Des maçons, mécanos, chauffeurs, livreurs, serveurs. Non, c'est pas excitant quand on rêve. Et non pas quand on rêve de révolution, mais quand simplement on rêve de devenir riche et ou célèbre. Là pour le cas, autodidacte, grand entrepreneur, self-made man, un leader. En attendant, c'est bleu de travail, pompe de sécu, bob sur la tête, voilà encore une caricature. Il distille un peu et boit trop, c'est ses vieux qui lui disent tous les jours. Il squatte un local avec ses camarades, il discute, brasse, refait le monde et se dit, une seule solution, la révolution. Ça rime encore. Alors j'espère que dans tout ça, vous avez fait la différence entre un travail de merde, un travail à la con et un travail à chier. Ça dépend effectivement un peu de sa situation. Mais aussi, il peut y avoir le prisonnier rebelle, le sans-papier révolté, la féministe activiste, l'intellectuel utopiste, l'artiste génial, le héros, le messie. Tant de sujets qu'à la fin, on se demande s'il n'y avait pas besoin d'un roi, quoi. En tout cas, ces sujets révolutionnaires ont leur complément réactionnaire et permettant à chacun de retrouver le chemin de la normale. Et encore une fois, chacun le sien. Alors du prolétaire précaire qui, en fin de grève négociée, lève les piquets exigeant le paiement des jours grévés, qui, n'ayant rien obtenu, dépité, dit que le combat continue et que ce n'est qu'un début, ou de l'émeutier, blanc, black, bloc, les yeux rougis par la lacrymo, qui ira sur internet regarder les dégâts et les images, vanter ses exploits, dénoncer la police,
jusqu'à la prochaine fois, ils le promettent.
Ou alors du métis mutin, Black Burr, reprenant le chemin de la cité, qui verra quelques amis prendre celui de la prison, et retrouvera cette autoradio puissante, cette voiture flambante, qui crache un rap incendiaire. Allons bon, ouais, on peut en faire des pelles comme ça, mais trêve de caricature. Ici, moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet révolutionnaire, et qu'il faut faire attention à toutes les théories révolutionnaires. Car il y a tant à apprendre des émeutes de banlieue en 2005, autant que dans le mouvement du CPE, autant que dans les grandes grèves de 95, autant que dans les événements en Grèce qu'à Villers-le-Bel, autant que dans un centre de rétention qui brûle, ou que d'une prison en révolte, autant que d'un squat qui résiste que d'un amphi occupé, autant que d'un blocage ou d'un sabotage. Que tout ce qui est fait, dit ou écrit, autour de chaque lutte, fait avec conviction, et là pour le coup sans exemplarité, sans idéaliser, sans caricaturer, et juste essayer de changer et d'échanger d'avis.
Friends, Merry Christmas, you all.
Ne pas baisser la garde, le froid resserre les liens et le feu nous réchauffe. Bon, 88.4 sur Radio NDChain, c'est la fin de cette émission et une petite musique, on va s'écouter quand même putain ce putain de vol d'hirondelle, c'est la fraction des amis parisiens qui chantent, allez on envoie le vol d'hirondelle.
Au début de l'histoire de l'homme, d'un coup le dent rageur est mordu dans la pomme, j'ai assisté les loups dans leur messe de sang. Je suis l'hirondelle de la nuit, je suis l'hirondelle de la nuit. Mes ailes graves sont mon perfect noir, et quand j'ai dans les bras pour m'ouvrir à l'espoir, l'ombre de la mémoire.
88.4 Radio Galère. Et donc on se retrouve pas la semaine prochaine, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, cette fois-ci sur Oskanga Seros, et donc dont on vous a déjà parlé, et dont on vous invitera plus que jamais à essayer de récupérer le bouquin récemment sorti, une compilation des trois numéros d'Oskanga Seros 85, 86, 87, et qui est fort intéressant. On vous en parlera plus donc dans 15 jours.
Et dans deux émissions.
Et sur deux émissions d'ailleurs.
Et on évitera les textes, bonne année.
Et voilà, aucune excuse, nique tout, rien à péter, on s'en fout. Allez, vas-y, on déchaîne.